Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Comme il est d'usage, on commence à l'heure et on terminera à l'heure. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette 11e soirée de la chaire Jean Rodin du Centre Sèvres. Comme vous savez, la chaire Jean Rodin est soutenue par la Fondation Jean Rodin, qui est une fondation qui a pour but de promouvoir une réflexion théologique sur la charité dans les institutions universitaires et aussi le dialogue avec les acteurs de terrain et les personnes en précarité. Au Centre Sèvres, cette chaire permet de tenir un certain nombre de cours sur la pauvreté, sur la doctrine sociale de l'Église, aussi sur une théologie à l'école des pauvres. Je vous renvoie au programme du Centre Sèvres à la page 113. Vous pouvez regarder. Il y a marqué « Cher Rodin », il y a un certain nombre d'enseignements qui sont recoupés sous cette appellation. Et aussi, ça permet cette année un séminaire de recherche sur l'option préférentielle pour les pauvres et les apports du père Joseph Wresinski à cette conception de l'option préférentielle pour les pauvres. Vous savez, cette option qui est une option de l'Église entière. Un séminaire pour les universitaires et les doctorants. Alors, c'est précisément cette figure du père Joseph Wresinski qui nous rassemble ce soir, fondateur du mouvement ATD Quart-Monde. Et nous avons intitulé cette soirée « Le monde à l'envers » du père Wresinski. Pourquoi le monde à l'envers, à votre avis? Eh bien, c'est parce que pour lui, dans cette perspective, le mouvement qu'il a fondé avec d'autres était bien de mettre les pauvres en premier, de faire de ceux et celles qui ont vécu la grande précarité qu'ils soient des maîtres, des précurseurs, des partenaires privilégiés de la lutte contre la pauvreté. Le monde à l'envers qui nous renvoie aussi à l'Évangile, bien sûr, où les premiers seront les derniers, où les petits sont les premiers récepteurs de la bonne nouvelle, et où ces petits sont, plus que les sages et les savants, ceux qui comprennent et reçoivent la bonne nouvelle en premier. Ceux qui perçoivent la présence du Dieu de miséricorde dans la venue de son Fils. J'ai été hanté, dit le père Joseph, par l'idée que jamais ces familles ne sortiraient de la misère aussi longtemps qu'elles ne seraient pas accueillies dans leur ensemble en tant que peuple, là où débattaient les hommes, les autres hommes. Je me suis promis que si je restais, je ferais en sorte que ces familles puissent gravir les marches du Vatican, de l'Élysée et de l'ONU. Le père Joseph Wresinski, qui est né en 1917 et mort en 1988, a rejoint en 1956 les familles du bidonville de Noisy-le-Grand, et c'est là qu'il a fondé le mouvement ATD Quart-Monde pour la reconnaissance de la dignité et aussi de, je dirais, la place, la pensée des pauvres, des plus pauvres. Ce mouvement de défense des droits des personnes exclues s'étend aujourd'hui à plus de 30 pays. Je crois qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui font partie de ce mouvement. Cette soirée de la chaire Jean Rodin donnera la parole à des personnes qui l'ont bien connu pour évoquer d'abord son itinéraire spirituel et humain. Et nous avons d'abord invité pour ça M. Georges-Paul Cuny, qui est à ma gauche, qui a l'auteur de cette belle biographie que vous connaissez peut-être déjà, « L'homme qui déclara la guerre à la misère », avec une préface de Michel Rocard, qui est donc une très belle, je trouve, biographie de l'itinéraire spirituel, humain, de Joseph Wresinski. Monsieur Cuny nous en parlera à l'instant. Puis nous avons également invité Marcel Gestin, qui est à ma droite, militante du mouvement ATD et aussi membre de l'association La Pierre d'Angle, qui a bien connu le père Joseph, ainsi que Marie-Yvonne Caillot, aussi permanente du mouvement ATD et de l'association La Pierre d'Angle. La Pierre d'Angle, donc, c'est une association aussi qui permet le partage de la parole de Dieu avec les plus pauvres. Tous deux nous parlerons de l'homme, Joseph, qu'elles ont connu, et du sens du combat contre la misère. Et puis Étienne Grieux, qui est professeur de théologie, doyen de notre faculté, qui nous donnera aussi quelques pistes de réflexion sur l'apport du père Wresinski à une théologie à partir de la parole et de l'expérience des pauvres. une manière de comprendre l'option préférentielle pour les pauvres dans la ligne du Père Joseph. Peut-être une théologie de la libération à la française. Nous verrons. Je sais qu'il y a des latinos dans la salle, ils pourront aussi intervenir s'ils veulent. Voilà notre programme de cette soirée. Les interventions laisseront une large place à la discussion, comme d'habitude dans nos soirées. Donc nous pourrons dialoguer, poser des questions, témoigner, si nous le souhaitons aussi, autour de cette figure du Père Joseph. Voilà. Mais je laisse tout de suite la parole maintenant à Monsieur Cuny pour 20 minutes, voilà, pour qu'elle nous trace un petit itinéraire spirituel du Père Joseph qu'il a décrit dans son livre.
Merci mon père. Le problème, c'est que l'homme qui déclarait la guerre à la misère n'a pas laissé de carte. Alors pour son itinéraire, c'est pas très facile de savoir exactement quelle route il a pris. Mais néanmoins, il faut bien comprendre que l'itinéraire spirituel n'est pas la spiritualité. La spiritualité, ça s'exprime, ça s'écrit. Alors que l'itinéraire spirituel, c'est quelque chose d'extrêmement secret, de personnel. C'est même irréductible à toute autre chose. Et chacun a le sien et il est semblable à l'une ou l'autre. On ne peut pas trouver pareil que ça. Hein? Voilà. Alors l'itinéraire du Père Joseph, si vous voulez, on peut dire qu'il commence, il a en gros 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'enfance et de l'adolescence, jusqu'au moment où il sera inscrit dans la société comme pâtissier. Alors la question, c'est que le Père Joseph est né dans la misère. Il faut bien voir que ça a marqué profondément son caractère et son cœur, et que jamais la misère ne l'a quitté, et toujours le M de la misère comme du malheur sont restés gravés sur ses épaules. Hein. Bon, il a vécu là-dedans, et dès l'âge de 4 ans, il est obligé de travailler pour effectivement aider à faire vivre sa famille. Il a fait ça en servant la messe chez les sœurs du bon pasteur, et c'était une des raisons de son salut. Parce qu'il a rencontré chez les sœurs du bon pasteur un accueil tous les matins qui était effectivement très bon, très chaleureux, et qui l'ont aidé également à connaître l'Église, et en particulier à la savourer dans sa beauté. Dans la beauté de la liturgie, dans la beauté également des ornements et des architectures. Le Père Joseph a connu trop tôt également, donc je disais la misère, mais il a connu deux choses très importantes. En même temps, c'est le malheur, c'est l'amour et le malheur. Or, l'amour et le malheur, l'amour et la souffrance, si vous voulez, ce sont les deux choses qui tramaient, ce sont les deux fils rouges qui tramaient, forment la toile fondamentale de l'existence humaine. Toute existence humaine est traversée par l'amour et par la souffrance. Et ça, de tous les temps, aussi bien du premier homme que jusqu'à la fin de l'humanité, on peut dire. Hein. Et le Père Joseph était traversé par ça très jeune, trop tôt, je dirais, parce que quand on a ça à 4 ans, on est révolté, et il était un petit peu révolté. Il le disait, il faut vraiment que ma mère souffre beaucoup pour accepter de m'envoyer comme ça dans les rues, alors que je suis jeune, alors que je suis trop petit, que je ne tiens pas sur mes jambes. Et il l'a fait quand même. Hein. Alors, cet amour qu'il a reçu des sœurs et qu'il recevait également de sa mère, si vous voulez, ça a contrebattu un petit peu l'influence du malheur qu'il avait profondément marqué, mais également ça lui a donné pas mal il a compris à ce moment-là, si vous voulez, que quand même que on ne vit pas de façon indemne, hein, on ne vit pas de façon indemne, et la vie n'est pas faite pour qu'elle se termine de façon indemne. La vie, c'est normal de souffrir, c'est normal de faire quelque chose qui construise à partir de là. On crée à partir de ses blessures. Je crois que le Père Joseph a vraiment compris ça, qu'on crée à partir de ses blessures. Hein. Et puis, il y a acquis également l'idée que il ne suffit pas de naître pour exister. Ça ne vient pas tout seul d'exister. On est, et puis après, il faut se donner du mal d'exister. Et le fait qu'il était, dès l'âge de 4 ans, était obligé de travailler pour ramener des sous à la maison, ça lui a appris qu'exister, ce n'était pas une chose évidente du tout. Hein. Voilà. Je crois que le Père Joseph, si vous voulez, il est un petit peu... Je me rappelle que dans ma jeunesse, nous, on l'avait comparé Jacques Cœur et Jean de Ligny. Jacques Cœur et Jean de Ligny étaient nés en même temps, à peu près au XVIe siècle. Et là, Jacques Cœur, on lui doit la formule « À cœur vaillant, rien n'est possible ». Et bien, le Père Joseph, c'est un petit peu ça. « À cœur vaillant, rien n'est possible ». Et on l'opposait à Jean de Ligny, qui lui était un grand noble, et qui avait comme blason un chameau qui ployait sous la charge. Et il disait, lui, nul n'est tenu à l'impossible. Et Jean de Ligny a effectivement obéi à sa devise, parce que c'est lui qui vendit Jeanne d'Arc. Donc le Père Joseph était beaucoup plus du sang de Jacques Cœur que de Jean de Ligny. Ça, c'est une chose absolument sûre. Bon. Il y a une chose également qui était très importante dans cet itinéraire, c'est la connaissance de leur curé. Leur curé les visitait chaque année pour demander de donner du culte, Et à cette visite du curé, ils étaient extrêmement sensibles parce que c'était la première personne qui leur demandait quelque chose. On ne nous demande jamais rien. Ça, c'est quelque chose qui est tout de même très, très important à savoir. Et c'est, moi, jamais je me suis posé la question qu'on ne me demandait jamais rien. Je ne sais pas si vous l'avez posé, mais moi, ça m'a toujours paru une question tout à fait... Ils souffraient qu'on ne leur demande jamais rien. Ça, c'est tout de même m'a toujours paru tout à fait extraordinaire. Il a donc été marqué par cette souffrance pendant son enfance, marqué également par l'amour de sa mère, et ensuite, quand il se décidera à être pâtissier, il va enfin sortir de la misère. Il va enfin sortir de la misère, mais il se dira, je ne peux pas continuer quand même comme ça à ne rien faire pour sauver les autres de la misère, il faut que je m'engage. Et son premier engagement, il le fera dans le Parti communiste. Mais il n'y restera pas longtemps. Il restera à peine, je crois, 6 mois. Mais ce n'est pas tellement étonnant pour qui l'a connu, parce que ce n'était pas du tout l'homme des explications totalisantes ou des synthèses clôturées. Joseph était beaucoup plus ouvert que ça. Il n'était pas du tout fermé, il n'était pas du tout un homme de système. Donc il est resté quelques mois au Parti communiste, et puis il y avait également l'athéisme du Parti communiste, qui devait peser quand même sur cet être qui était chrétien, mais qui à l'époque, en fait, je crois, ne fréquentait plus l'Église. Non. Donc le père Joseph, il a rompu son premier engagement, il a essayé de sortir de la misère par l'engagement politique. Comme il a vu que ça ne marchait pas, il a ensuite eu l'engagement associatif, en entrant à la JOC. Et alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant quand il est entré à la JOC, c'est que il ne faisait rien, en fait, il ne s'était pas engagé, il vivait une vie de pâtissier déjà. Oui, il était pâtissier, il n'était pas seulement apprenti, mais il passait ses journées comme tout le monde, quoi. Il disait à quoi sert la vie, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et un jour, c'est en traversant un pont qu'un de ses camarades, qui s'appelait Édouard Landas, l'a convaincu de l'accompagner à une soirée de la JOC. Alors c'est assez amusant parce que quand même, ça se passait sur un pont. Un pont, c'est une franchie entre deux rives, quoi. Donc il était au milieu du pont, il discute, il regarde l'eau, et l'eau, elle s'écoule l'eau sans pouvoir jamais se rattraper, un petit peu comme la vie, quoi. Et là, Joseph hésite. Il hésite, et puis il choisit quand même d'aller à la JOC. Et ça, c'est intéressant parce que c'est... Comment, pourquoi est-ce qu'il choisit d'aller à la JOC, on ne sait pas, mais il le fait. Et là, ça va changer beaucoup parce que à la JOC, on va le prendre au sérieux. On va lui dire, toi Joseph, tu vas faire le compte-rendu. Et personne, encore une fois, ne lui a demandé de faire des choses pareilles. Il fait donc le compte-rendu et il va apprendre à ce que c'est que l'écriture. Il va voir que l'écriture, c'est un mode de perfection et d'approfondissement qui est absolument unique en son genre. Hein. L'écriture, alors il a commencé à écrire. Il s'est aperçu que l'écriture, on pouvait décrire des expériences avec l'écriture, et puis à mesure que l'expérience se déroulait, ça devient une pensée, et à mesure que la pensée s'élabore, ça devient une conscience. Et c'est avec l'écriture qu'il a effectivement réussi à créer la pensée et la conscience du quart monde par la suite. Hein. Il est allé à la JOC, et à la JOC, il a été extrêmement utile, parce que Joseph est un homme qui était extrêmement perfectionniste, qui faisait tout bien. D'ailleurs, quand on voit son écriture, quand il a une écriture d'enfant, une grosse écriture, elle est presque calligraphiée, mais il faisait des choses juste à fond. Et donc, à la JOC, il fera les choses à fond. Il étudiera à fond quels sont les modes de vie, les modes de travail de ses collègues. Et petit à petit, avec l'aumônier, il s'apercevra, si vous voulez, que ça ne suffit pas d'être associatif pour sauver les gens de la misère. Par une démarche que lui seul pourrait raconter, parce qu'elle est tout à fait spéciale, c'est en priant et en approfondissant de plus en plus sa religion qu'il se dira « Il n'y a que par l'Évangile que je puis sauver les pauvres et que je puis sauver les gens de la misère. » Ça, c'est une démarche qu'effectivement, il est le premier à faire, que personne n'avait fait avant lui. Et ça va le conduire à être prêtre. Il va être conduit à être prêtre, mais, cette prêtrise, on sent que pour lui, si vous voulez, c'est très important de vouloir apporter la spiritualité aux très pauvres. Ils pensent que le plus grand tort qu'on leur ait causé, c'est de les avoir privés de spiritualité, de les avoir privés de Dieu. Donc je se dis, moi je vais me faire prêtre, et c'est la seule façon de pouvoir apporter les prêtres aux pauvres, c'est que moi je sois prêtre pour faire ça, voilà. Hein. Alors d'ailleurs il dira « Dire que j'ai trouvé Dieu serait une fanfaronnade ». L'ai-je seulement cherché? C'est plutôt Dieu qui me cherche, me trouve. Si la lumière du jour est là ce matin, c'est Dieu qui m'arrive. Donc il va devenir prêtre, et comme prêtre, il va avoir comment dirais-je, un désir très profond, c'est celui d'aller très loin. Il dira « Ce que la vie sacerdotale me réserve, je l'ignore. L'estime de quelques-uns, l'hostilité ou la défiance d'un grand nombre, de toute façon la joie de vivre dans l'intimité de celui à qui je me donne sans réserve le Christ, c'est de travailler à son règne, soit en une des paroisses de ce diocèse, soit si Dieu me fait la grâce de préciser son appel aux confins du champ apostolique. » Moi, ce que je retiens, c'est les confins du champ apostolique. C'est très intéressant de voir ça parce que il a déjà des horizons extrêmement larges. Il tire déjà pour son avenir des traits sur l'horizon, au-delà de ce que peut être une paroisse. Alors, il va d'abord faire son service militaire et là, il va rencontrer un ami avant d'être prêtre. Il va rencontrer un ami qui s'appelle l'abbé Bach, qui va le suivre très longtemps et tout le temps. Et pour Joseph, chaque événement est une théophanie. C'est-à-dire que chaque événement est une possibilité de regarder Dieu et de le voir. De même que chaque rencontre est pour lui une capacité de mettre un amour de plus dans son cœur. C'est très étrange comme vision tout ça. Oui. Alors le prêtre qui va être ordonné en 1956, mais là où il va avoir une vie très difficile, c'est dans ses premières années de vicariat et de curé. Il sera vicaire d'abord à Ternier, et puis ensuite il sera curé à Duzel, mais alors quand il est curé et vicaire, il cherche des pauvres, il ne les trouve pas. Il voit bien des cheminots, il voit bien des ouvriers, il voit bien des gens qui n'ont pas de facilité à vivre, mais les très pauvres, il ne les trouve pas. Et ça lui manque, et il est en quelque sorte orphelin de la misère. Il est orphelin de retrouver ce qu'il a connu dans sa jeunesse. C'est tout à fait singulier, cette façon de voir les choses, parce qu'il était dans le malheur, il en est sorti, et malgré ça, il a comme une espèce d'attirance et de volonté de retourner là-bas pour sauver effectivement ceux qui sont là-bas. On sent que Joseph, pendant ces années d'Uzel et de Ternier, n'est pas vraiment un homme heureux. Et on sent qu'il est à côté de lui, il est en exode de lui-même. Il se sent en exil d'une vie qu'il ne connaît pas, et en exode de quelque chose qui ne parvient pas non plus à fuir. Il est à la fois en exil de ce qu'il voudrait aller, et puis en exode de ce qu'il fuit aussi, il ne sait pas trop bien. Moi, j'ai ce sentiment que ces 10 années de prêtrise où il n'est pas encore le Joseph de Noisy, eh bien, il se cherche, il s'attend, il n'est pas encore né en réalité. Il n'est pas encore né. Il a un corps, effectivement, mais il n'est pas encore né. Il fait uniquement... Et on sent que chez lui, il y a un grand désir de pardon. Je pense que Joseph était un homme qui était structuré par les pardons, je crois. Parce qu'il avait besoin de pardon envers lui-même, pour lui-même, parce qu'il sentait qu'il n'était pas toujours ce qu'il aurait aimé être, et puis il devait également pardonner aux autres. Il avait également, même déjà à l'époque, un grand amour de l'Église, qui lui disait dire, l'amour de ta maison sera mon tourment, c'est exactement ça ce qu'il ressentait à Duzel. Et puis, à force de ne pas exactement voir où est sa voie, à force de ne pas savoir trouver les pauvres tels qu'il les en voudrait, son évêque a pris contact avec l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre lui a dit, moi je voudrais bien trouver quelqu'un qui puisse me remplacer à Noisy parce que je vais quitter Noisy, ce camp de misérable. Et l'évêque demande à Joseph à ce moment-là d'aller à Noisy. Et Joseph hésite, il pleure la nuit où on lui propose d'aller à Noisy parce qu'il se rend compte que c'est totalement nouveau pour lui, c'est bon, voilà. Et il va se rendre à Noisy, ça va être une étape capitale de son itinéraire. Parce que ces 3 jours, il va les faire à pied, en clochard, sans être reconnu. Et bon, il sera comme l'homme de la Bible qui disait quand une fille errant Elohim, non ? C'est quelque chose comme ça ? Hein ? Je crois bien, oui. Bon. Alors Joseph va faire ça. Il va aller à Noisy, et là, à Noisy, il va naître. Alors là, il faut se rapprocher de l'évangile selon saint Jean dans Nicodème, parce qu'il n'y a que par là qu'on peut comprendre le saisissement de Joseph et l'accouchement du vrai Joseph sur terre à partir de Noisy. C'est un autre homme qui vit. Et c'est un autre prêtre aussi, ce n'est plus l'homme uniquement, comment dirais-je, des exercices vertueux ou de la piété normale. Il lui faut accueillir la vie neuve que Dieu lui donne. Il faut qu'il accueille la vie neuve que Dieu lui donne, c'est-à-dire avec de nouveaux yeux, avec de nouveaux bras, une nouvelle pensée, et puis surtout une nouvelle certitude. Cette fois, il a trouvé, il est sûr de lui, il est absolument sûr de ce qu'il va faire, c'est-à-dire sauver les plus pauvres en s'incarnant. Donc, vous voyez, il y a eu un premier message politique, après associatif, après sacerdotal. Le quatrième, c'est l'incarnation. Joseph va s'incarner parce qu'il sait que son Dieu, pour sauver les hommes, s'est incarné. Et il se dit également que pour sauver d'autres personnes, il faut s'incarner parmi eux dans leur vie. Ça, c'est, voilà. Alors, la foi de Joseph telle qu'il va la manifester ensuite, si vous voulez, elle, moi je lis, la foi dans le Christ était absolument totale. Hein. Vous savez que Pascal se disait, moi, au fond, entre la vérité et le Christ, si le Christ n'est pas la vérité, moi je choisis la vérité, je balance le Christ, disait Pascal. Bon, à l'opposé, il y a un héros de Dostoïevski dans Les Possédés, Chatov, qui dit, moi le Christ est la vérité, moi c'est le Christ. Hein. La vérité, j'en ai rien à battre. Hein. Moi, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu Gide. Gide disait, je crois parce que c'est beau. Il n'a pas dit, je crois parce que c'est vrai. Je crois parce que c'est beau. Hein. Mais le Père Joseph, il croit quel que soit. Il croit parce que c'est beau et parce que c'est vrai. Et les deux. Hein. Par contre, la dernière chose, peut-être que je vais vous dire, c'est la suivante. Le plus vrai de son itinéraire, c'est pas tout ce que je vous ai dit. Et c'est pas ce que d'autres diront, ou ce sera exactement ça, c'est la vérité partout, rien n'est faux en fait. Bon, mais c'est que lorsqu'il priait, lorsqu'il disait l'autre Père, une fois je l'ai surpris à dire notre Père au cours d'une messe, il le disait, il avait les yeux qui n'avaient pas été fermés comme il le faisait lorsqu'il on avait le sentiment qu'il cherchait à percevoir le rayonnement essentiel des choses et des êtres comme ça. Bon, c'est très être. Alors il disait, tout d'un coup il s'est arrêté, que votre volonté, que ta volonté soit faite. Et là il a baissé la tête. Il était comme ça remué, et il a dit, que ta volonté soit faite, mais oui, on devrait chercher que ça, on devrait ne trouver comme bonheur que cela, faire ta volonté, mais à tout instant de la vie, etc. Eh bien, le vrai de son itinéraire, je dis, au jour le jour, heure par heure, instant par instant, c'était ça, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est ça son vrai étape itinéraire. J'en ai fini, merci.
Merci beaucoup. Voilà, merci Monsieur Cuny. Nous pourrons revenir tout à l'heure sur tous les détails que vous avez mis dans votre livre aussi. On sent la passion aussi qui vous anime dans cette reconstitution de cet itinéraire de cet homme. Je laisse la parole maintenant à Marie-Vonne Caillot, voilà, qui pourra nous dire comment elle voit le personnage de Joseph qu'elle a connu, et puis aussi dans la discussion avec Marcel.
Donc je vais d'abord donner la parole à Marcel. Voilà. Alors, Marcel, toi, tu as connu le Père Joseph, tu l'as rencontré, il est quelqu'un d'important pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous raconter comment tu l'as rencontré?
Bon, d'abord, j'ai connu le Père Joseph par l'audiovisuel, par la télévision. À la messe du dimanche, hein, parce que comme je vivais dans complètement exclu de tout le monde, donc voilà, et j'ai rencontré ce Père Joseph par la télévision. Je trouvais que c'était un prêtre qui parlait bien. Hein, j'ai dit comment il peut oser parler comme ça. Et puis on a décidé d'aller donc. Avec le prêtre de ma paroisse, d'aller à la rencontre du Père Joseph, qui m'a demandé, donc à ce moment-là, avec un groupe de Rennes, de faire une formation avec le Père Joseph. C'est comme ça que je l'ai connu, que je l'ai côtoyé. Bon, disons que ça n'a pas été facile au début, parce que, bon, le Père Joseph, nous, on a du mal, surtout quand on sort quelqu'un de l'exclusion et que on est une quinzaine autour de la table, il faut parler. Il faut prendre la parole. Quelqu'un qui prend, comme moi, qui sait pas parler et que... Bon, maintenant, c'est différent, mais bon. C'est une chose que... Bon, on était 15. Et je crois qu'on aurait pu rester des demi-journées entières si on n'avait pas dit un mot. On sortait pas de là. Tant qu'on n'avait pas dit un mot, on sortait pas de là. Et il nous demandait de faire des choses qui paraissaient possibles pour lui, mais pas pour nous. Comme l'histoire pour aller à l'école. Il me demandait toujours, fallait que j'aille à l'école. Et puis, je raconte souvent cette anecdote. Hein. J'étais à l'école, j'ai voulu lui rendre hommage quelque part. J'étais à l'école, mais rencontrer les instituteurs. Mais la première fois, j'ai pas été. La deuxième fois, j'ai été parce qu'il m'a dit si tu peux pas aller tout seul, tu vas trouver une amie, tu l'amènes avec toi. Alors, j'ai été trouver une amie, elle est venue avec moi. Mais c'est elle qui a parlé pour moi. Elle a dit que oui, mais Marcel peut pas, elle a honte de vous, elle peut pas vous parler, l'instituteur. Moi, j'étais, je sais pas où, je sais pas où me mettre, si j'avais été, oh là là, j'aurais bien été en dessous de la table, me cacher, tellement que, bon, j'ai eu la honte de ma vie, la prochaine fois, j'écouterai le père Joseph, j'irai tout seul. Et voilà ce que je me suis dit. Mais bon, plein de choses comme ça, et bon, pour moi, le père Joseph, c'est quelque chose de grand.
Voilà. Et tu nous disais que le père Joseph, il te demandait d'apprendre. Hein, d'apprendre à lire particulièrement. Ça a été important pour toi? Tu as pu apprendre à lire?
Oui. Le père Joseph me demandait d'apprendre à lire. Oui, je ne comprenais pas pourquoi je pouvais apprendre à lire. Il y a des choses que je savais. Hein, bien sûr que quand on ne sait pas lire, ben, on sait quand même des choses. Hein. Il y a des choses que l'on voit, il y a des images que l'on voit, il y a des choses que l'on reconnaît. Hein. Je n'avais pas besoin de savoir lire, puisque mon mari savait lire pour moi. Donc, il y a plein de choses. Hein, pas besoin tout le temps de savoir lire. Mais bon, après, au fil des années, j'ai quand même dit, le père Joseph a peut-être raison, il faut peut-être quand même que je me mette à apprendre à lire. Alors là, je crois que quand j'ai appris à lire, je crois que ça a été une délivrance pour moi. Maintenant, je sais lire. Mais bon, faut dire que quand j'écrivais des lettres au père Joseph, je savais pas encore lire et je savais pas non plus, je déchiffrais, bien sûr, je faisais que des copies. Hein. Et quand je lui écrivais au père Joseph, j'ai dû faire 3-4 fois ma lettre parce qu'il me répondait toujours qu'il avait rien compris. Alors, est-ce que c'était un exercice pour que j'apprenne? Ah, peut-être. Mais bon, pour dire après que j'ai fait une petite phrase un petit peu courte, et là, il avait quand même compris. Bon, maintenant, j'ai quand même appris, et je suis quand même soulagée, j'encourage tout le monde à apprendre à lire, parce que c'est quand même quelque chose de merveilleux de savoir lire. Moi, maintenant, mes livres ne me quittent plus, et puis je crois que c'est la délivrance de savoir. Mais ça, faut aussi... C'est un peu dans mon élevage hein, que j'ai été élevée comme ça, parce que ma grand-mère disait, il n'y a pas besoin d'apprendre, t'as tes mains pour travailler. Voilà.
Voilà. Et donc, tout à l'heure on parlait, Marcel, et tu m'as dit, le père Joseph, il m'a fait découvrir mes valeurs. Hein, il m'a fait découvrir ce qui est le plus important. Et tu me disais, c'est la famille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? La famille, pour toi, pour le père Joseph?
Ouais, pour moi, le père Joseph est important, parce qu'il avait, à cœur, de toute façon, quand j'ai connu le mouvement au départ, j'étais pas militante, je faisais partie de la famille Carmonde, hein, pour se dire que ça existait beaucoup, là. La famille, c'est ce que l'on a, nous, enfants de pauvres, quand je suis mariée, quand j'ai eu des enfants, je dis ça y est, j'ai une famille. Hein, j'ai trouvé, je construis ma famille. Alors, et pour le père Joseph, la famille était importante. Les enfants, il fallait, même si on place les enfants, il fallait qu'on soit toujours ensemble, jamais éloignés. Hein, il disait que c'est intolérable de voir qu'on prend les enfants et puis qu'on les sépare des parents, les parents. Et ça, c'était intolérable pour lui. Bon, il a pris des risques pour nous. C'est quelque chose. Moi, il m'a rendu mes valeurs en tous les cas, hein, parce que quand je l'ai connu, j'avais encore mes enfants qui étaient placés. Hein, et donc il m'a dit de prendre un avocat parce que ces gens-là sont faits pour nous défendre et pour nous écouter. Et ben, je l'ai écouté. J'ai pris un avocat. Et puis bon, comme ça, tout est revenu dans l'ordre, mais j'avais aussi changé, parce que il m'a appris, pour ma famille, à savoir parler d'abord, à savoir écouter les autres, parce que c'est pas tout de savoir, de dire, de se mettre en colère, et puis on casse tout, et puis on fait rien, mais si on n'a pas écouté l'autre, c'est pas bon non plus. Donc ça, il m'a appris la tolérance aussi. Ça, j'ai compris ça du père Joseph. Bien que lui aussi, hein, quelquefois, mais lui, il avait droit. Hein. C'était le père Joseph. Voilà. Mais bon, c'est vrai. Mais lui, il avait droit de faire ça. Mais bon, voilà. Lui, il avait droit aussi de quand il en a pris un enfant pour aller cacher en Suisse parce qu'il voulait qu'il soit avec tout le monde, hein, qu'il soit en même temps que sa famille, et qu'il a dit qu'il le rendrait pas tant qu'il serait pas avec sa famille. Il a pris des risques, hein, mais ça aussi, c'était Père Joseph. Nous, on n'aurait pas fait le quart de ça qu'on avait des bracelets, hein. Mais bon, voilà. C'est aussi, c'est clair. Il m'a rendu tellement digne, tellement. Il m'a rendu devant mon nom. Il m'a rendu ma dignité. Il m'a rendu mon personnage. Hein, quand il me tapait sur l'épaule, Marcel, gratte pas tes pieds, tu marches. Ah bah oui, mais je lui dis je marche, mais bon, il faut bien que je regarde par terre. Ben non, parce que pour lui, si je regardais par terre, c'est que j'avais honte de moi. Donc, fallait aussi que j'ai des valeurs, que je sache faire des choses et que je savais faire des choses. Donc, c'est déjà quelque chose. Sans le Père Joseph, je serais pas là ce soir. Du moins, je vous parlerai pas, quoi.
Et encore, Tu me disais que tu aimais beaucoup ce petit livre qui rassemble des paroles du Père Joseph et qu'il y en a une dont tu voulais parler ce soir.
Oui, j'aime bien, ça c'est mon livre de chevet, hein, le livre du Père Joseph. Hein, il y a une parole où ils disent « Jamais l'homme n'est aussi grand, hein, que lorsqu'il... sait qu'il est petit. » Ça, c'est une phrase qui me reste. Parce que, bon, on sait que, bon, un homme, quand il est grand, s'il sait qu'il est petit, automatiquement, voilà. Pour moi, c'est beaucoup. Mais bon, le Père Joseph, il fréquentait les grands, nous, fréquentait les petits. Ça aussi, mais pour moi, j'ai aimé de parler du Père Joseph, hein, parce que bon, moi c'était mon père, donc bon, disons que il a remplacé le père que je n'ai pas eu. Il m'a appris plein de choses, il m'a appris les valeurs, il m'a appris à m'élever dans la société, il m'a redonné mon identité, il m'a donné plein de choses. Bon, voilà. Et c'est pas que je renie mon père, c'est pas que je renie ma mère, mais c'est pas que je renie ma famille. Mais au contraire, j'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère. Je dis bon, ce sont des gens qui savaient pas. Hein, je me dis qu'il y avait des choses qu'ils avaient à apprendre et qu'ils n'ont pas appris. Et raison de plus. Comme ça, j'ai appris par quelqu'un d'autre. Et puis voilà.
Merci Marcel. Alors, je vais essayer de vous dire quelques mots de Père Joseph pour moi. Alors, le monde à l'envers du Père Joseph Wresinski. Quand ce titre a été proposé pour cette soirée, je me suis dit tout de suite, ah ben voilà, c'est ça qu'il faut. En effet, je crois que le Père Joseph a chamboulé le monde, en tous les cas, en France. Il a chamboulé la manière de parler des pauvres, de les considérer et de lutter contre la pauvreté. Et le Père Joseph, il m'a aussi personnellement beaucoup bousculé dans mes idées, dans ma façon d'entrer en relation, de lire l'Évangile et peut-être même d'aimer, je dirais. Alors lorsqu'en 1982, avec Jean-Claude, mon mari, nous sommes arrivés dans le mouvement ATD Quart-Monde. Notre motivation était toute simple. C'était simplement de rejoindre les pauvres pour vivre pleinement l'Évangile avec les préférés du Père. Voilà, seulement vivre l'Évangile avec les pauvres. Et le Père Joseph nous a accueillis et il nous a proposé d'aller nous installer avec nos enfants dans une petite cité de la région parisienne, à Herblay, pour y partager la vie des familles très pauvres qui y résidaient. Alors j'y venais, évidemment, avec beaucoup d'enthousiasme, de générosité, et puis le désir d'aider, le désir de donner, et puis peut-être d'être efficace. Et le Père Joseph, d'emblée, nous a fait faire un pas de côté. Il nous a dit, vous allez commencer par apprendre, vous allez rien faire, vous allez commencer par apprendre. Apprendre des familles. Et il m'a dit, tu seras mère de famille avec les autres mères de famille pour apprendre. Je ne saisissais pas vraiment le sens de ces mots. Apprendre, oui, mais apprendre quoi ? Apprendre de ceux qui, à mes yeux, ne savaient si peu que alors je ne voyais, moi, surtout à partir de leur manque et de leurs difficultés. Et c'est peu à peu, très lentement, au fil des années, que mes yeux ont commencé à se dessiller et qu'une brèche s'est ouverte dans ma façon de voir et d'entendre les personnes que je rencontrais. Et je crois que là, je touche à quelque chose de très, très important, de capital pour le Père Joseph. Il savait combien nous sommes tous habités d'idées généreuses, de bonne volonté. Mais il savait aussi que tout cela peut nous empêcher de voir, de vraiment voir et de comprendre, de découvrir l'expérience des très pauvres. Il nous fallait rejoindre les personnes telles qu'elles étaient, les rencontrer dans leurs mots, dans leurs expériences, dans leur façon d'agir, d'être, de parler. Pas seulement être là dans cette petite cité pour aider les familles rassemblées par la misère, mais nous mettre à l'écoute, à l'école, pour apprendre d'elles. Le Père Joseph écrit que tout naît dans une vie partagée. Et il me fallait apprendre aussi ce secret que Dieu a révélé aux tout petits, aux pauvres, et ce secret qu'il a caché aux sages et aux savants. Et le Père Joseph commande cette parole de Jésus, alors je cite, « Les petits, les humbles, sont dans le secret. Ils peuvent comprendre les affaires de Dieu que les plus instruits ne saisissent pas. » Et il continue, « Je dois apprendre à contempler Jésus à travers leur regard, à imaginer la justice de Dieu à travers leur expérience. » Dans ce domaine, le Père Joseph va plus loin encore. Il dit que les personnes les plus pauvres sont pour lui des maîtres en humanité et des maîtres en théologie. Voilà sans doute ce que voulait le Père Joseph en nous demandant d'élever nos enfants à la cité du soleil levant et puis d'apprendre. Et je peux dire aujourd'hui que les hommes et les femmes, les enfants que j'ai rencontrés à Herblay et puis par la suite ailleurs, ils m'ont fait découvrir un autre visage de Dieu. Le Dieu des pauvres m'ont fait découvrir le Dieu, excusez-moi, les pauvres de Dieu m'ont fait découvrir le Dieu des pauvres. Alors, je me souviens, et Martial vient de nous le redire, que le Père Joseph parlait sans cesse de dignité. Il n'a eu de cesse que les pauvres soient reconnus dans toute leur humanité, dans leur grandeur. Et que la misère soit regardée non pas comme à charge, comme une situation dont les personnes seraient coupables, mais comme une atteinte aux droits de l'homme. Avec lui, la lutte contre la misère devenait ainsi non plus un problème personnel que les familles, que les personnes avaient à résoudre, mais une question posée à la société tout entière, une question qui engage la responsabilité de la société. pour la détruire, la misère, il était impératif, d'entrer dans le combat et dans les débats des hommes. C'est un combat politique. Mais rétablir les personnes dans leurs droits ne suffit pas. Il ne s'agit donc pas seulement d'un combat pour les droits, mais de travailler aussi pour faire monde ensemble. Je me souviens qu'en 1987, nous avions inventé le slogan « Justice au cœur » pour signifier que la justice devait absolument se conjuguer avec l'amour. Conjointement au travail sur les droits, il faut travailler pour que les pauvres soient réintroduits dans la communauté humaine et dans la fraternité. C'est d'ailleurs ce que résume la phrase qui est inscrite sur le Trocadéro à Paris. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. S'unir tous ensemble, s'unir pour faire monde ensemble. Et nous rassembler autour des pauvres et avec les pauvres pour les entendre et se laisser enseigner par leur expérience de vie, c'est une démarche qui est centrale dans le mouvement Tédécart Monde. Mais le Père Joseph nous a conduit encore plus loin. Il nous a appris qu'il n'est pas suffisant de rassembler les pauvres, qu'il nous faut inlassablement aller chercher ceux qui manquent, les absents, plus pauvres encore, ceux qui n'osent pas rejoindre les autres parce qu'ils sont noués par la honte et la déconsidération. Il nous a appris que le plus pauvre, c'est l'absent. Selon ces mots, je cite, « Il nous faut aller dans les chemins creux, chercher les hommes et les femmes exclus de la communauté des hommes, privés des biens du partage non seulement économique, mais encore culturel, social, spirituel, jugés incapables et indignes d'assumer leurs responsabilités familiales, civiques, ou politique. » Voilà la citation finie. Il nous a fait comprendre qu'une société qui s'unit avec et à partir des plus pauvres de ses membres, sera tendue vers la recherche de la justice, promesse de paix et de fraternité. Encore un autre point qui a bousculé ma façon de voir et de comprendre le monde, c'est la question autour du don et de l'assistance. Dès son arrivée au camp de Noisy-le-Grand, en voyant les associations caritatives à l'œuvre, il aperçut que les réponses de pitié condescendantes, aussi généreuses soient-elles, ne contribuaient qu'à humilier encore plus les familles qui étaient contraintes d'accepter cette charité. Et les témoins de l'époque disent combien il a renvoyé sans ménagement les bénévoles qui venaient distribuer la soupe populaire. Et d'ailleurs, ces témoins parlent aussi de l'incompréhension de certaines des familles du camp. Et le Père Joseph nous a fait comprendre que les familles devaient elles-mêmes prendre en charge leur avenir, et non pas individuellement, mais collectivement. Mais qu'elle ne pourrait jamais le faire seule. C'est pourquoi il était nécessaire que d'autres s'engagent avec elle dans la durée et dans une sorte de destin commun. C'est le sens du volontariat permanent et de l'alliance dans le mouvement Tédécart Monde. Alors pour terminer, je voudrais juste vous dire quelques mots sur le genre d'homme qu'était le Père Joseph, tel que je l'ai connu. Alors c'était un homme déroutant. Il n'était jamais vraiment là où on l'attendait. Il n'était jamais vraiment satisfait. Il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. C'est un homme bon, qui écoutait. Je me souviens qu'il était particulièrement attentif aux enfants. Et combien nos propres enfants aimaient rire et chahuter avec lui. Et en même temps, c'était un homme capable de colère. Et puis d'emportement violent même. En fait, je me suis souvent dit qu'il ressemblait à certaines personnes du quart monde que j'ai rencontrées. Un mélange de très grande humanité et pas complètement guéri des affres de la misère. Les stigmates demeurent. Petit, il a connu la souffrance des humiliés et il l'a gardée gravée en lui. Je crois que le père Joseph était un homme blessé, hanté par l'injustice qu'est la misère. Toute sa vie, il a gardé les traces de l'humiliation vécue par sa famille et la violence de son père. Je me dis que c'était peut-être cela le carburant de son combat, que plus aucune famille, aucun enfant ne vive plus cela.
Merci Marie-Vonne d'avoir évoqué non seulement le combat du Père Joseph, mais aussi l'homme que tu as connu, voilà, avec ses contrastes dans sa manière de vivre. Dans votre livre d'ailleurs, Monsieur Cuny, vous racontez cette scène du camp de Noisy où le Père Joseph renverse la marmite de la soupe populaire devant évidemment tous les gens ébahis qui étaient là. Cette espèce de coup de colère là pour la dignité des personnes, en refusant de laisser l'assistance prendre le dessus sur la dignité des personnes. Je laisse maintenant la parole à Étienne Grieux pour nous donner quelques pistes. Il y en aurait beaucoup d'autres à faire, mais c'est le début d'une recherche. Voilà, quelques pistes sur la dimension théologique de la pensée du Père Joseph. Voilà, il a eu une pensée théologique qu'il est bon aujourd'hui, je crois, d'approfondir et de recueillir. Merci Étienne.
Merci Alain. Oui, donc en quoi la pensée et l'œuvre de Joseph Rzezinski touchent la théologie et la renouvelle, on pourrait dire renouvelle l'intelligence de la foi, ou bien l'éclaire d'une autre manière. Alors pour chercher à répondre à cette question, on pourrait essayer d'identifier tel ou tel point sur lequel Joseph Rzezinski apporte un éclairage particulier. Et c'est ce qu'ont déjà fait plusieurs théologiens. Par exemple, Jean Lecuy, qui a écrit, on pourrait dire, comme une christologie à partir de Joseph Rzezinski. Thierry Monfils, un jésuite belge, qui a travaillé sur une théologie du sacerdoce de Joseph Rzezinski. Et puis Amaury Begas, qui a fait sa thèse sur la théologie de la filiation et la question du salut à partir de Joseph Rzezinski. Voilà, donc vous voyez que rien que ça, ça montre qu'il y avait de quoi faire. Hein. On pourrait penser à d'autres thèmes. Par exemple, il y a certainement une ecclésiologie possible à partir de Joseph Rzezinski. Hein. Voilà, il avait intitulé un de ses livres les plus connus « Les pauvres sont l'Église ». Donc il y a bien une réflexion, toute une réflexion sur l'Église. Alors on pourrait dire que dès qu'on commence à y réfléchir, on s'aperçoit que la pensée du Père Joseph a une grande fécondité dans beaucoup de domaines de la théologie. Voilà. À partir de ça, la question qu'on pourrait se poser, ça pourrait être de se demander s'il y avait à identifier dans la perspective de Joseph Rzezinski ce qu'on pourrait appeler un principe, un élément qui serait central et premier et qui organise un peu tous les autres. Si on avait à identifier un élément comme ça chez Joseph Rzezinski, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce qui, chez lui, pourrait être connu comme étant central et déterminant pour tout le reste, ayant une influence, un effet sur tout le reste de sa théologie? Voilà. Qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait, par exemple, une certaine vision de l'homme, de sa dignité, qui reste intacte même quand la vie est profondément blessée par la misère? Est-ce que ça serait le souci du peuple des pauvres pour que leur place soit reconnue dans la société et dans l'Église et qu'ils y deviennent acteurs? Est-ce que ça serait la dénonciation de la misère comme peut-être le péché des péchés, car il détruit l'homme, car elle détruit l'homme? Est-ce que ça serait une vision de Dieu qui prend soin de tous ses enfants, à commencer par ceux qui vivent les plus grands tourments? Est-ce que ça serait une contemplation du Christ que sa mission conduit à la place du dernier des derniers? Alors tout cela, tous ces points que je viens de mentionner sont présents, très présents chez Joseph Wozniacki. Mais qu'est-ce qui serait central au point d'organiser toute sa pensée? Quel serait l'élément source à partir duquel sa vision s'organise et se déploie? Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne connais pas suffisamment Joseph Wozniacki pour y répondre. Mais quand même, ce que je peux faire ce soir, c'est avancer une hypothèse. Une simple hypothèse. D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvée tout seul. C'est en causant avec des volontaires d'ATD, notamment, que cette hypothèse est née. Voilà. Ce qui peut-être est central pour Joseph Wozniacki, à la fois dans sa pensée, mais aussi dans sa vie, on pourrait dire, c'est une quête, une recherche. La recherche du plus pauvre des hommes, c'est-à-dire du plus humilié, de celui qui est le plus isolé, le plus méprisé. Et c'est donc une recherche de cet homme-là. Et vous voyez, dire ça, ça veut dire que ce qui est central pour lui, en fait, c'est une dynamique, c'est un mouvement qui est orienté vers quelqu'un qui nous manque et qu'on ne connaît pas encore parce qu'il est comme retranché du monde des vivants. L'élément central, ça serait donc cette dynamique dans laquelle les premiers invités et invitants sont les personnes qui connaissent la grande pauvreté, car ils sont les mieux placés pour nous guider vers ceux qui sont encore plus pauvres et auxquels on n'a pour l'instant pas du tout accès. Pour Joseph Wozniacki, peut-être que ce qui donne vraiment sens à une vie humaine, ce qui donne sens aussi à une société, ce qui donne sens même à l'histoire et ce qui donne chair à la relation à Dieu, ça serait cette quête, cette recherche de celui qui nous manque. Et cette quête, qu'est-ce qu'elle produit? Eh bien, d'abord, on pourrait dire, elle est capable d'unir beaucoup de personnes et d'acteurs extrêmement différents dans une même recherche, par-delà tout ce qui d'habitude les sépare. Toutes les rivalités, petites ou énormes, toutes les questions d'identité qu'on va opposer les unes aux autres, tout ça est relativisé, remis à sa juste place, quand on est pris par l'urgence de la recherche de celui qui nous manque. Donc c'est un premier effet que produit cette quête, c'est qu'elle est capable d'unir, ce qui est quand même important dans une société. La deuxième chose qu'elle fait, c'est que cette quête, cette recherche, en même temps, elle dépouille. Le fait même d'avancer ensemble oblige à faire des choix. De quoi avons-nous besoin pour cette route? Qu'est-ce qui va nous aider? Et qu'est-ce qui va nous encombrer? Il y a là un critère de discernement tout simple, pratique et d'une efficacité assez redoutable. La troisième chose que produit cette quête, cette recherche, c'est qu'elle donne de quoi vivre, parce qu'elle est capable de libérer une énergie phénoménale. La quatrième chose que produit cette quête, c'est qu'elle est capable, elle fait connaître Dieu, car on pourrait dire elle épouse son geste. Et ça va tout à fait dans le même sens de ce que je viens de dire, on pourrait dire que cette quête nous donne rendez-vous avec le Christ. Car s'il en est un qui s'est mis volontairement à cette place de celui qui disparaît des écrans radars, c'est bien lui. Et donc, partant à la quête de celui qui nous manque, nous ne pouvons pas ne pas rencontrer aussi le Christ. À partir de cette quête, de ce mouvement, il y a une réflexion possible sur ce qu'est être humain. Ce n'est pas réussir sa vie, ce n'est pas non plus un accomplissement de soi, ce n'est même pas non plus avoir une fécondité, et Dieu sait que c'est beau pourtant, ni même non plus être aimé de Dieu. C'est simplement, mu par quelque chose qui nous dépasse et nous échappe, partir à la recherche du frère qui nous manque. Voilà qu'est-ce que ça serait, la vérité de l'être humain. Ça nous place, vous voyez, dans une condition pèlerine qui fait de nous quelqu'un qui rejoint ce frère encore absent et qui vit de son appel silencieux. Et c'est dans cette quête que nous sommes le plus nous-mêmes. C'est elle qui nous sauve de toutes les idoles qui prétendent nous donner la vie en voulant nous identifier avec telle ou telle image. Et dans cette quête, sans même le savoir, nous nous retrouvons tout étonnés dans le cœur de Dieu. Donc, à partir de cette quête, une réflexion possible sur ce qu'est l'homme. Mais il y a aussi une réflexion possible sur ce qu'est la société, ce qui la fait vraiment tenir et vivre. Ce ne sont pas les logiques de compétition, ni non plus de réussite ou de domination, ni non plus les affrontements avec les ennemis. Ce qui donne ultimement à une société sa force et sa grandeur, c'est le souci qu'elle a des plus fragiles de ses membres. Et ce faisant, elle échappe à la tentation de s'enfermer en elle-même, qui est peut-être la tentation de toute société. Car par ses membres les plus fragiles, elle est rouverte. Car les pauvres qui sont présents en son sein communient à la souffrance de tous les autres, par-delà toutes les frontières, jusqu'à celui qui est le plus méprisé. Vu de cette manière-là, ce qui fonde une société, c'est l'appel qu'elle entend de la part de ceux qui ne parviennent pas à vivre en elle ou bien qui campent à ses portes. Et c'est cela qui la pousse le plus à être créatrice, ouverte et rayonnante. Et à partir de cette quête de celui qui nous manque, nous avons aussi de quoi réfléchir sur ce qu'est l'Église, cette communion étonnante qui s'opère à partir du corps d'un homme humilié, Jésus-Christ, qui a été chassé de l'humanité. On s'est parfois interrogé si Jésus était d'un milieu marqué par la pauvreté, la grande pauvreté ou la misère. Sans doute que le plus stimulant, c'est de regarder l'histoire qu'il a suivie, l'itinéraire qui a été le sien, et qu'il l'a sans cesse conduit auprès de ceux qui n'avaient plus de place dans le peuple de l'Alliance, qui en étaient considérés comme indignes. On dirait que sa vie est aimantée par eux, et qu'il a suivi ce chemin jusqu'au bout, jusqu'à lui-même se retrouver mis au banc de son propre peuple. Et c'est depuis cette place-là qu'il attire à lui tous les hommes, comme s'il nous signifiait que la réconciliation avec Dieu passe par la réconciliation avec celui qui est définitivement banni de nos cercles. À partir de cette quête, enfin, je crois que nous avons également de quoi penser la fin des temps, l'eschatologie, pour sortir un gros mot théologique, et pour l'avoir comme une communion qui n'oublie personne, où tous ont une place et où chacun vit d'être aimé des autres. Voilà qui nous sort tout à fait d'une vision du salut comme une sorte de repêchage individuel, pour le voir comme une communion, le corps du Christ formé de tous ses membres et où les frères méprisés ont la première place. En fait, vous le voyez, c'est toute la théologie que Joseph Rzeczynski invite à revisiter. Et je crois qu'on peut vraiment dire qu'il fait partie de ces acteurs qui ont ouvert une brèche à partir de laquelle on voit toute chose un peu autrement. En même temps, j'ajouterais que Joseph Rzeczynski n'est pas seul sur ce chemin. Lui-même l'affirme de manière très claire. Pour lui, le Concile Vatican II a été pour l'Église un moment de grâce qui lui a permis de redécouvrir sa vocation qui ne peut se penser sans les pauvres. Et il me semble que nous pouvons lire les 50 dernières années de l'histoire de l'Église à travers ce prisme. Et le pontificat du pape François, et tout à l'heure, Marcel nous disait avant de commencer qu'elle trouvait que le pape François ressemblait à Joseph Brzezinski. Voilà. Eh bien, le pontificat du pape François aurait été tout à fait impensable au milieu du XXe siècle. Et ça nous montre tout le chemin qui a été parcouru. Ce chemin donc qui ouvre l'Église à une beaucoup plus grande sensibilité pour ses membres les plus fragiles et pour qu'ils aient vraiment une place et qu'ils soient acteurs dans l'Église, ce chemin, quand nous voyons la réalité de nos paroisses et de nos diocèses, on peut trouver qu'il est tout juste esquissé. Mais il ne faut pas, à partir de là, nous désoler, mais au contraire nous réjouir de toute la joie qui nous est encore promise dès lors que nous acceptons que l'Église, c'est cette communion qui s'opère à partir de ceux qui ne comptent plus. Car lorsqu'ils y trouvent leur place, ce sont tous les autres membres qui s'y sentent à l'aise et qui peuvent y être vraiment eux-mêmes. Et la joie de chacun est libérée lorsque le plus pauvre est retrouvé. Et c'est alors vraiment la fête. Eh bien, je crois que nous allons de plus en plus vers une Église en fête. Merci de votre attention.
Voilà, merci beaucoup Étienne. Voilà, de cet éclairage théologique, vous voyez que nous avons des paroles différentes ce soir, des points de vue, des approches variées sur cet homme, Joseph Brzezinski, dans son itinéraire, dans l'homme de combat, on pourrait dire qu'il a été, et puis dans le théologien que nous sommes en train de découvrir. Voilà, la parole maintenant est à vous pour intervenir, poser des questions, on va prendre du temps. Peut-être aussi donner des témoignages pour ceux d'entre vous qui l'ont connu ou qui veulent rajouter tel ou tel élément. Voilà. Donc prenons ce temps maintenant, tranquillement, de pouvoir poser la question à l'un ou l'autre de nos intervenants. Voilà, Monsieur Cuny sur les itinéraires, Marie-Vonne, Marcel ou Étienne. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut faire passer. Oui, j'ai vu. Merci.
Moi, je suis un petit peu, je serais moins compliqué que vous, mon père. Moi, je trouve une théologie besoin de prier, parce que la prière approche de Dieu, et Dieu communique par l'esprit. Je n'attaque pas votre donnée, mais si on exclut, je dis pas vous excuser, je vous dis, si on exclut la prière avec le Christ, la théologie manque, elle boite. Maintenant, la question se pose maintenant avec M. Cluny, c'est bien M. Cluny. Je lis par hasard certains passages du livre de du Père. Et là, il faut que dire, le Père a trouvé ça juste, ce juste, le juste donné pour, avec les pauvres par la communication avec le Christ. Le Christ lui a communiqué l'amour du pauvre. C'est le Christ qui l'a communiqué, c'est pas lui qui... Certes, il avait souffert beaucoup, c'est la pauvreté qu'il avait subie, c'est toujours mon opinion, mais le Christ l'a mis l'amour pour. C'est l'amour qui vient uniquement du Christ. C'est l'amour pur qui va dire, il trouve le mot juste pour toucher le cœur des pauvres. Parce qu'il faut quand même dire, on parle beaucoup des pauvres, pauvres, pauvres. Mais des fois, on est à côté du pauvre. Et le Père a vraiment bien touché le pauvre, c'est-à-dire l'amour juste. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps. Voilà. Excusez-moi.
Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas si vous voulez faire un écho à ça. D'autres questions ? On va prendre plusieurs questions, comme ça, ça va permettre... Voilà.
Bon, merci. Bon, je ne connais pas du tout le père Brzezinski, donc c'est quelqu'un de magnifique, vraiment, en l'écoutant.
C'est... Tu peux te présenter peut-être, Pedro Pablo.
Ah, bon, je m'appelle Pedro Pablo, oui. Je vais finir bientôt le deuxième cycle ici, au Saint-Sèvres. Et bon, c'est ça, je viens de Chili. Oui, c'est pour ça que je parle français un peu bizarre. Mais mon question, c'est très basique, en fait. C'est par rapport au nom du mouvement, non, Quart Monde. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, je le trouvais un peu, je sais pas, c'est, d'abord parler de monde, de tiers monde, de quart monde, ça, un peu, je sais pas, ça me complique. Donc, je ne sais pas si on peut poser une question sur le nom du mouvement, sur pourquoi parler de quart monde, c'est pas un peu comme des catégories de gens, même, je sais pas, je ne sais pas, c'est pour problématiser le nom du mouvement, mais.
Oui, merci. Marcel va répondre.
Alors, moi, je vais répondre. Pourquoi le quart monde? À un moment donné, il était question de changer le nom de ATD quart monde. Vous pouvez changer ATD, d'accord, mais pas le quart monde. Parce que, ici, en France, le quart monde, hein, ça veut dire, dans l'histoire de France, hein, le quart monde représentait le peuple. Hein, le peuple d'en bas, celui qui n'a rien. C'est donc le peuple du plus pauvre. Hein, c'est pour ça que ça s'est appelé, que le père Joseph a dit que c'était le quart monde. Et depuis, voilà pourquoi on s'appelle ATD quart monde. Parce qu'on vient du monde d'en bas, on vient du monde le plus pauvre. Donc, c'est pour ça que je dis, on peut changer le nom de l'ATD, ça n'a pas d'importance, ça peut s'appeler comme elle veut, mais pas le quart monde. Le quart monde, il faut qu'il reste. Ça représente vraiment trop les gens d'en bas, trop le peuple.
Tu fais allusion à quelque chose qui remonte à la Révolution, hein.
Voilà.
Vas-y.
Quand le mouvement ATD quart monde et le père Joseph, je pense, le père Joseph a inventé ce mot qui a été fabriqué par lui. C'était pour donner une identité positive à un peuple. Et à un peuple qui n'a pas de frontières, en fait. Mais à un peuple qui se met debout pour dire non à la misère, pour revendiquer une sorte de fierté d'être ce qu'il est, parce qu'il a quelque chose d'essentiel à apporter au monde. Et dans le mouvement ATD quart monde, on a souvent parlé justement de cette affaire de frontières, de délimiter. On est dedans, on n'est pas dedans. Et combien c'est difficile, parce qu'en fait, qui est du quart monde? Ben, tous ceux qui s'y reconnaissent, les plus pauvres, sans doute qu'ils ne le savent pas, et tous ceux qui le rejoignent. Je me rappelle quand nous habitions à Herblay, donc nos enfants étaient petits, et donc quand on disait « c'est quoi le quart monde ?», ils disaient ben, « c'est nous ». Parce qu'en fait, ce sont des gens qui s'unissent pour dire non à la misère, autour, à partir, avec les plus pauvres. Je ne sais pas si ça répond.
Si je me souviens bien, il y a aussi une allusion dans la pensée du Père Joseph au cahier des quatrième état. Hein, il y a eu les revendications du tiers état. Vous savez, dans l'histoire de la Révolution française, hein, il y a eu ça. Mais certainement des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi. Et donc il y a aussi des cahiers du quatrième état, ceux qu'on a oubliés précisément et ceux qui ne vont pas être représentés au moment de l'Assemblée nationale. C'est un peu une histoire aussi auquel il fait allusion, mais peut-être quelqu'un veut-il préciser cette question? Je ne vois pas où c'est. Ah oui, voilà. Merci beaucoup. Ah bon, alors, s'il y a un livre entier là-dessus, ne dites pas tout.
Non, j'ai essayé d'être rapide, parce que c'est une histoire longue, mais en fait, le père Joseph a créé, forgé ce mot à partir, en analogie avec à la fois le cahier du quatrième ordre de la Révolution française, d'un certain Dufourny, et l'appellation tiers-monde qui avait été créée en 1962. Et ce qui est intéressant, c'est que l'appellation tiers-monde, c'était justement pour permettre aux pays les plus pauvres d'avoir une représentation à l'échelle du monde. Voilà. Et alors que le quart monde, c'est à partir le quatrième ordre, par exemple, c'était en France, dans ce cahier du quatrième ordre, Dufourny s'indigne du fait que les plus pauvres sont exclus des droits politiques en 1789, ce qui n'est pas connu. ce qui n'est pas assez connu, et tout l'enjeu de la Révolution, c'est de leur redonner leurs droits. Mais voilà, donc par analogie aux deux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent, qu'ils détruisent l'idée que les pauvres sont simplement dans le tiers-monde. Et voilà, donc c'est une vision assez universelle et qui montre l'envie que les personnes puissent être capables de penser, et, enfin, qu'ils soient reconnus comme des hommes de pensée avec des droits politiques.
Merci beaucoup.
Ça va bien plus loin que ça, mais au départ.
Il y a une question ici, oui. Allez-y.
Pardon, moi j'avais une question, mais auparavant j'ai réalisé que si vous multipliez 3 par 4, donc un tiers multiplié par un quart, ça fait 12, donc ça va quoi. Les 12 apôtres, on retombe quand même dans quelque chose de divin. Donc. Alors sinon, ma question c'est suite à l'exposé théologique. En fait, je me disais, parce que vous savez tous et toutes que c'était la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Et je sais pas quand est la semaine de la violence, de lutte contre les violences faites aux femmes, aux hommes, je sais pas quand c'est. Et toujours est-il que je me suis dit, si on remplace le mot pauvre par victime de violence, tout ce qui a été dit s'applique aussi, quoi, pour venir en aide et créer des groupes de soutien. Et on peut substituer facilement pauvre par autre chose, quoi.
Bon, je voulais savoir s'il pouvait y avoir une autre théologie que celle de Joseph Brzezinski, finalement.
Et pourquoi que
exposé. Bah, elle me paraît tellement évidente et tellement refléter ce que l'Évangile et ce qui a été la vie de Jésus-Christ, son message, que je me dis, mais comment il peut y en avoir une autre?
Il y en a bien d'autres. Attendez. Mais il faut laisser la place aux autres. Oui.
Non, mais moi je voulais juste porter un témoignage là. Quand on dit ATD Quart Monde, il y a le mot monde dedans. Il y a l'idée que je trouve tout à fait originale qu'il s'agit là d'un peuple universel en quelque sorte. Moi, c'est une découverte qui m'a beaucoup frappé en venant travailler à ATD. Hein. De même que. Vous avez parlé de l'absent, c'est tout à fait extraordinaire. Moi, j'ai assisté à des réunions dites de programmation, et tout le monde était là, et on prend une matinée presque à se mettre en présence de l'absent. J'ai trouvé ça extraordinaire, vous voyez, parce que au lieu de se plonger dans l'action, qu'est-ce qu'on va faire, non, prenons le temps de nous dire est-ce que se mettre dans la tête, est-ce qu'on est bien conscient qu'on est loin de l'absent? Je trouvais ça absolument extraordinaire pour moi qui venais enfin, de l'industrie ou des trucs comme ça. Où on faisait des réunions de programmation en disant demain on fait ci, on fait ça. Voilà, c'est tout.
Ça déplace beaucoup, oui.
J'ai juste apporté ce témoignage. Voilà.
Je voulais demander à M. Cuny avant. Justement, parce qu'il explique ça aussi dans son livre, comment cette perception que la pauvreté est vraiment un peuple, comment ça s'enracine dans l'expérience elle-même du Père Joseph, dans son enfance, dans les épreuves qu'il a subies. Ce que vous avez. Une petite seconde, merci.
Le peuple, c'est une chose que le Père Joseph a découvert justement en arrivant à Noisy le 14 juillet 1956, où il a vu quasiment toute sa vie se dérouler à partir de cette découverte. Et où il a su comment est-ce qu'il allait essayer de sortir le carmon de la misère. Mais il a dit tout de suite, j'ai compris, j'étais en face d'un peuple, effectivement, et ce mot peuple a surpris beaucoup de gens, en particulier Giscard d'Estaing, avec qui le Père Joseph avait de fréquentes relations. Giscard ne comprenait pas l'idée de peuple. Mais ce que Giscard ne comprenait pas, c'est qu'à partir du moment où le Père Joseph l'avait pensé et l'avait nommé, alors ce peuple commençait à exister. Moi, je me rappelle qu'au moment de la guerre d'Algérie, on nous disait souvent que Messaliach disait, il n'y a pas de peuple algérien, il n'y a pas de nation algérienne. Mais évidemment, il n'y avait pas. Puis un jour, elle s'est créée dans la douleur et dans le combat. Et pour le peuple, c'est pareil. Le Père Joseph a vu ce peuple. Il s'est dit, ce peuple-là, à partir du moment où je lui donne un nom, à partir du moment où il a des valeurs qui sont les siennes et qui ne sont pas celles de tout le monde, parce que les valeurs du quart monde, quand même, dans son mode de vie, dans sa souffrance, eh bien, elles sont quand même tout à fait spéciales, quoi. Et donc il les a unis à ce moment-là dans une pensée et il les a nommés. À partir du moment où il le nommait, le peuple existait. Bah, bon, oui, c'est ça, quoi. Oui, madame.
Je me demande si la richesse est un homme pauvre peut être aussi riche comme un homme riche. Je veux dire, c'est de quoi ça sert, et l'homme, il peut donner des richesses.
Oui, c'est exactement. Alors, il faut pas oublier. Alors, le père Joseph avait quand même une conception de la pauvreté qui était extrêmement précise. Hein. Je me rappelle que lorsqu'il était venu à Saint-François-Xavier nous prêcher un carême, et lorsqu'on avait l'imprudence de dire que nous étions pauvres, il nous disait non, ne vous moquez pas du monde, vous n'êtes pas pauvres. Toute souffrance n'est pas pauvreté. La pauvreté est d'abord économique. Mais vous n'êtes pas pauvres. Vous êtes seul, vous êtes souffrant, mais vous n'êtes pas pauvres. C'est comme ça. Ne volez pas le nom des pauvres aux pauvres. Voilà.
D'ailleurs, dans ses conférences de carême, il en a fait un livre, hein, dont le titre m'échappe à l'instant. Rencontre, Dieu rencontre les pauvres, rencontre du vrai Dieu. Voilà, merci. Un très beau livre des conférences de carême de cette époque, justement. Oui. D'autres réactions, témoignages, questions voilà, là-bas, merci.
Bonsoir. Ma question s'adresse à Marie-Vonne. Le Père vous envoyait rencontrer, là d'accord, et après la rencontre, il y avait probablement une période d'acceptation, je pense, ou pas acceptation. Est-ce que... ça me pose question, tout ça. Votre travail, votre mission... Oui, évidemment, bien sûr, le travail, ne pas être au-dessus, mais être avec, ça j'ai un peu entendu le message. Qui aide qui est aidé par qui? Je vois que ça a peut-être commencé en 82 pour vous, peut-être avant, cet engagement. Si je sais compter, ça fait à peu près 35 ans, vous êtes toujours là. Quel est l'enrichissement? Quel est le... qui? Voilà. C'est peut-être un peu indiscret.
Elle répondra ce qu'elle voudra.
Difficile. On ne sait pas ce qu'aurait été la vie si on n'avait pas cheminé avec le mouvement Athée des Quart-Monde. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, je crois qu'il nous a vraiment appris à voir le monde autrement. Et alors, d'autre part, le mouvement Athée des Quart-Monde n'est pas un mouvement de contemplatif où on se contente de faire chemin avec route, avec les familles très pauvres. Et puis, non, c'est aussi un mouvement d'action. Et un mouvement de lutte, disons, de combat politique, social, parce que, oui, le père Joseph disait, la misère est l'œuvre des hommes. C'est un proverbe africain aussi qu'il a repris. La misère est l'œuvre des hommes, seuls les hommes pourront la détruire. Donc, il ne s'agit pas simplement de regarder et de contempler, non, mais aussi d'agir. Mais alors, le père Joseph nous a appris à agir, non pas seulement nos propres idées, nos bonnes idées, mais à agir ensemble avec les personnes qui vivent ces situations. Parce que c'est elles qui connaissent la réalité, la vérité de ce que c'est. Et c'est seulement avec elle, ensemble, qu'on pourra trouver les chemins de la justice, les chemins de la libération des plus pauvres. On ne fait pas la vie à la place des autres. Chacun est responsable de sa vie, mais chacun est responsable de ses actes. Mais comment ensemble... Justement, inventer un monde de fraternité où on pourra se parler, se comprendre. le monde de, quand vous rentrez dans le monde de la misère, vous rentrez vraiment dans un autre monde. Dans, Père Joseph, il dit qu'on rentre dans un monde étranger où tout est à réapprendre. C'est vrai parce que les expériences de grande humiliation, quand elles sont vécues petites et qu'elles sont vécues dans le temps, longtemps, eh bien ça finit par... par atteindre les personnes au plus profond d'elles-mêmes, et des fois ça les amène à avoir des comportements qui sont difficiles à comprendre pour les autres. Et donc, eh bien, il faut du temps pour apprendre à se parler, à se comprendre, à ce que la confiance naisse, mais réciproquement. Je ne sais pas si je réponds aux questions, mais voilà. Et mais après, une fois que ben, petit à petit on a appris, on devient aussi plus fort et plus capable d'aller dialoguer avec ben, ceux qui ont des responsabilités à tous les niveaux, mais des responsabilités dans la société. Pour que le monde change, s'il y a de la misère dans notre société, c'est aussi parce qu'elle le tolère. Et donc, comment faire pour retrouver ou trouver les moyens, les chemins pour que tout homme dans notre société ait une place? Je ne sais pas, je suis un peu confuse, excusez-moi. Ils vont bien, merci.
Les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent, ils sont...
Enfin aussi.
J'avais envie de poser la question à Marcel aussi. Cette invitation du Père Joseph à travailler avec d'autres, à travailler ensemble, comment tu as vécu ça, hein? Quand tu disais tout à l'heure, par exemple, voilà, il m'a demandé d'emmener quelqu'un avec moi et puis d'aller à une réunion ou de se former. Voilà, jamais tout seul, quoi, avec d'autres.
Non, on ne va jamais tout seul. Et comme disait le Père Joseph, le militant doit aller chercher le militant. Bon, moi-même, je vais voir les militants, mais bon, faut se dire que on met du temps avant d'ouvrir ma porte. Les gens ne nous font pas confiance. Donc disons que je suis à même de les comprendre parce que j'ai vécu la même chose. Hein, avant de faire confiance aux gens, il m'a fallu un temps. Hein, donc moi, je me souviens d'une mère de famille où j'ai mis pratiquement 4 ans avant qu'elle approche quelqu'un. Bon, maintenant, on la sort un petit peu. Il y a encore des problèmes, mais on arrive à la sortir, on arrive à la faire bouger. Et ça, c'est pour moi, je dis. Et elle vient maintenant avec nous aux réunions de Pierre d'Angle. Je dis bon, ça c'est une chose, mais. C'est vrai que bon, la peur du pauvre est en nous. Hein, on est toujours dans la méfiance. On a toujours la peur, et ça, je l'ai appris. J'ai appris à combler mes peurs avec le Père Joseph. Combien de fois il a fallu que je prenne sur moi pour faire quelque chose, parce que bon, voilà. Mais bon, ça s'en prend pas tous les jours. Ça on met du temps. C'est vrai, c'est ce que le Père Joseph nous a dit, nous a appris. Hein. Mais bon, faut se dire que c'est long, hein, la misère, on s'en sort pas comme ça. Moi, comme je dis, je suis toujours pauvre, je suis pauvre comme ça, mais je suis plus riche que certains, parce que je suis plus riche que Sarkozy et que Hollande et que tout ce que tu veux. Ah, voilà. Ah, parce que moi maintenant, bah, je me souviens que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de choses, et puis bon, faut se dire qu'il n'y a pas que le Père Joseph, qu'il y a le bon Dieu qui est là-dedans aussi. Hein, parce que si j'avais pas cru en Dieu, si j'avais pas cru en Dieu, si j'avais pas vu la messe du Père Joseph, eh ben il y a ça aussi. Donc que quand j'ai écrit au pape et que je lui ai dit qu'il fallait qu'il passe quelque chose pour le Père Joseph, hein, parce que eh ben je trouve que bon, c'est normal, hein, c'est pour moi, c'est pour les pauvres, c'était comme un dieu, il nous a tellement fait de choses que voilà.
Pour redescendre sur terre, en fait, je voulais savoir, avec la crise actuelle, en pratique, je ne sais pas qui imprime les mouvements à TD Carmonde, mais vu ce qui se passe en France, donc voilà, par rapport à l'emploi, en pratique, qu'est-ce qui est modulé par la condition économique du pays? Et sinon, juste pour savoir, je ne sais pas si parmi vous quelqu'un sait, en fait, est-ce que vous savez pourquoi il avait choisi la pâtisserie et qu'est-ce qu'il avait porté là-dessus? Est-ce qu'après, il faisait des gros gâteaux pour tout le monde?
Je ne sais pas, je n'ai pas dit.
On va peut-être répondre en l'ordre à plusieurs choses. Alors, la pâtisserie,
oui. Dans la pâtisserie, d'après ce que j'ai su, peut-être que ce n'est pas ça, mais en fait, d'après ce qu'on dit, c'est qu'il avait vu il cherchait du travail et qu'il avait vu une annonce sur la boutique en disant, voilà, on recherche un apprenti. Il a dit, donc, moi, je veux bien faire de la pâtisserie. Voilà. Mais je crois qu'il n'avait pas d'autre idée que celle-là. Son frère était travailleur sur bois, sculpteur sur bois. Mais lui, il a fait la pâtisserie, mais après, il avait beaucoup de respect pour la pâtisserie, un infini respect, parce qu'il disait que c'était un art, qu'il fallait vraiment, créer le gâteau, le faire parfait, etc. Puis c'est quand même un produit où on ne reconnaît pas les origines. Il y a de la crème, il y a du lait, il y a je ne sais pas quoi, du beurre, mais au total, on ne voit plus, quoi. C'est pas comme le beefsteak et la moutarde, on voit bien que le beefsteak et la moutarde, franchement. Alors, il était extrêmement fier de son métier de pâtissier. Et puis, en fait, il a continué à en faire dans le mouvement. Oui, oui, il régalait le monde de croissants, des choses comme ça. Enfin, ça, c'est l'élémentaire. Hein. Mais il savait faire des Paris-Brest et des choses comme ça. Hein. Non, il était assez fin en pâtisserie.
Alors, sur la question du rapport aux politiques, à l'emploi, qu'est-ce qu'on peut dire là, dans... Pardon.
Il y en a dans la salle qui pourraient répondre beaucoup mieux que moi sur cette question-là.
Qui veut répondre à ces questions?
Mais c'est une question centrale, évidemment. Ce qu'il y a, c'est que la pauvreté n'est pas que monétaire, hein, vous l'avez bien compris. Et c'est, on ne peut pas isoler les choses. Tout est lié. Le pape aussi le dit, hein, tout est lié. Et donc la question du travail, elle est liée aussi à la question du logement, à la question de l'éducation, de l'école, elle est liée à la question de la santé, elle est à la façon dont on peut se projeter aussi dans l'avenir, les relations avec les autres, tout est lié. Et dans le mouvement TD Carmonde, justement, on travaille sur dans tous ces domaines-là à la fois. Mais bon, tout le monde ne peut pas tout faire à la fois. Il y a des propositions très, très précises qui sont faites pour réfléchir aujourd'hui comment est-ce que le pays pourrait sortir du chômage de longue durée. Et il y a des propositions et des expérimentations qui sont en train de se faire dans plusieurs domaines. Il y a une loi, d'ailleurs, qui est en ce moment discutée au Parlement. Voilà, qui est reporté à cause des événements. Et ce sont des expérimentations sur des territoires précis, zéro chômeur de longue durée. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet du mouvement TD Carmonde.
On peut rappeler aussi peut-être que ce livre est préfacé par Michel Rocard, qui rappelle l'importance du rapport... fait au Conseil économique et social par le Père Joseph et le mouvement ATD Carmonde, à l'occasion de la création de la loi sur le RMI, le revenu minimum d'insertion, voilà, ce qui est maintenant devenu le RSA. Voilà, donc c'est ce souci vraiment d'une de proposition de loi, d'une politique aussi qui permette aux plus pauvres d'être mieux considérés et de pouvoir sortir aussi de leur état est tout à fait central dans cette action du Père Joseph. Oui. Il y avait François d'abord.
Non, mais on peut ajouter également l'action que mène actuellement notre délégué au Conseil économique, social et environnemental sur l'éducation.
Oui, ce qu'on peut dire qu'actuellement, c'est qu'il y a un gros clivage dans la société française. Il y a quand même toute une catégorie de gens qui sont complètement ignorés et qui sont enfoncés dans la misère et que, malgré tout, bon, il faut aussi constater qu'il y a un affaiblissement de tout mouvement syndical, etc., prise en charge des gens par eux-mêmes et qu'il est extrêmement difficile. Par exemple, moi j'habite à Saint-Denis, il y a des listes, des files d'attente pour accéder simplement à la caisse d'allocation familiale qui sont insoutenables. Et puis, il y a encore énormément de pauvreté qui sont cachées et pour lesquelles on peut aussi, nous, chacun de notre niveau, faire un peu quelque chose. Je suis écrivain public, bon, donc, mais à Saint-Denis, récemment, j'ai reçu quelqu'un qui ne sait pas lire. Il est déjà d'un certain âge et il a perdu son emploi. Il est encore, par chance, dans son logement. Qu'est-ce qu'il a comme revenu ? 400 euros par mois. Quand il a payé son loyer, même un loyer d'HLM, qu'est-ce qui lui reste ? Évidemment, il venait pour l'aider à remplir une demande d'endettement, enfin d'entrée dans...
Endettement, oui.
Surendettement. Alors, il y a la pauvreté, mais se rajoute le fait qu'il ne sait pas lire et écrire. Et il faut voir la complexité des imprimés qu'on demande aux plus pauvres de remplir. Par exemple, ne serait-ce qu'on dit, il y a la CMU, mais après, vous pouvez avoir une complémentaire, la CMUC. Ben, je défie beaucoup de gens qu'on réponde, ne savent pas, ne peuvent pas répondre à l'imprimé de la CMUC, tellement il est compliqué. Quand il faut s'adresser à la caisse d'allocation familiale pour remplir et obtenir, ne serait-ce que par exemple l'aide au logement, c'est d'une complexité incroyable auquel les pauvres sont affrontés. Alors je conclue simplement par une petite chose, parce que ça m'a frappé. On institue des belles lois, par exemple la loi Dalo. Et dernièrement, j'ai reçu une femme. Alors, elle était venue justement pour parler de ses problèmes de logement. Il faut combien d'années pour attendre un logement dans la Seine-Saint-Denis ? Alors, je lui ai dit, bah, essayez peut-être de remplir une demande d'allô. Elle me dit non, non. Une lettre au ministre du logement. Et elle m'a... Donc on a rédigé la lettre. Et puis à un moment, elle m'a dit, mais oui, mais... Voyez mon gamin, quand j'ai commencé à faire des démarches pour demander un logement, il avait 6 ans. Il a 14 ans maintenant. Et il n'a toujours pas de logement. On est toujours sans logement. Alors ça, je l'ai mis dans la lettre pour le ministre. Hein, parce que passer toute son enfance sans avoir un logement comblable, c'est pas admissible. Et ça peut être le seul argument qui peut-être toucher le ministre.
Merci. Alors, il y avait une prise de parole ici aussi. Voilà. Attendez, micro, on va...
Oui, moi je voulais juste signaler à madame, peut-être à d'autres, que pour répondre à la question de ce que fait un peu le mouvement, il y a un excellent livre qui vient de paraître, qui est « Quand un peuple parle ». C'est comme ça le titre, hein, je crois. Mais, de Bruno Tardieu, vous comprendrez, en le lisant, la démarche du mouvement dans sa durée. Hein, je vous en recommande vivement la lecture, quoi. Indépendamment du livre de Paul Georges, qui n'est pas du tout sur le même plan.
Complémentaire totalement de celui-là.
Pas du tout sur le même plan. Donc les deux sont aussi intéressants.
Voilà. Il y a quelqu'un ici aussi. Là. Merci. Merci de rendre ce service du micro.
J'entends bien que le Père Joseph a été saisi par cette notion de peuple lorsqu'il est arrivé à Noisy et que cette notion de peuple, cette notion de famille sont absolument centrales pour lui. Est-ce que, là je ne connais pas suffisamment ses écrits et sa pensée, est-ce qu'il a abordé la problématique des marginaux qui sont peut-être les exclus même de la pauvreté, qui sont dans un tel individualisme et un tel exclusion, qui n'ont plus ni famille, ni relation avec qui que ce soit. Je pense là à tous ceux qui sont sans logis et les SDF de Paris qui sont en nombre croissant. Est-ce qu'il a exprimé quelque chose à ce niveau-là, le père Joseph?
C'est eux le peuple.
Jean-Claude. Non, je vais répondre à ça, toi.
Oui, attendez votre tour, s'il vous plaît. Merci. Larivonne, comment...
Je crois qu'il ne s'agit pas de faire de hiérarchie, etc., ni de compartiment. Il me semble que l'intuition très, très profonde du père Joseph de rejoindre l'absent, et de rejoindre le plus pauvre, celui qui cumule le plus, celui qui est le plus abandonné, celui de qui on n'attend rien, de qui, voilà, eh bien, va nous permettre de rassembler tous les hommes. Il n'y a pas d'un côté les marginaux qui seraient dans la rue tout seuls, sans famille, de l'autre côté les chômeurs. Non, c'est se rassembler tous ensemble, la société, à partir avec le plus pauvre. Mais sans, on ne fait plus de catégories. On se rassemble ensemble, et ensemble on va essayer de créer un monde où chacun aura sa place, où chacun pourra vivre et donner le meilleur de ce qu'il est. Là, il me semble que le père Joseph, il nous donne un chemin, il nous donne une orientation pour essayer de faire justement de n'oublier personne. Et la question de l'absent, c'est ça. C'est ça. C'est pas plus ceux qui n'ont pas de travail que ceux qui sont malades dans les hôpitaux psychiatriques ou enfermés dans les prisons. Non, c'est tout le monde. Et le plus pauvre, je pense que le plus pauvre n'est pas une personne. Il est celui qui nous appelle toujours au-delà. Dès que quelqu'un, on rentre en relation avec quelqu'un, eh bien, évidemment, il faut continuer à faire chemin avec cette personne, et puis que petit à petit, qu'elle retrouve le chemin des autres, mais elle doit, à son tour, nous emmener vers plus pauvre encore. Je ne sais pas si je réponds, mais...
Oui, c'est d'ailleurs saisissant dans les groupes d'ATD Carmonde, ou de Pierre d'Angle, ou de communautés comme d'autres, cette recherche, voilà, permanente de celui qui manque. De fait, je crois que c'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup dans ces groupes, qu'il y en a d'autres plus pauvres que nous qui sont pas là. Faudrait aller les rejoindre. C'est vraiment un mouvement que je sens fort dans ces groupes, qui est toujours important. Oui, allez-y. Oui, j'ai une question aussi après. Vas-y, oui.
Moi?
Vas-y.
Ah d'accord, oui, une petite question théologique, mais est-ce qu'on peut dire que le père Joseph, il était un prophète? Parce que Étienne, tu n'as pas utilisé ce mot-là, mais aujourd'hui on parle qu'il manque des prophètes dans l'Église. Je crois que peut-être c'est évident qu'il était un prophète pour nous. Donc la dimension prophétique, si on peut dire quelque chose.
Oui, vas-y Étienne, si tu veux répondre. J'aurais une autre question théologique aussi, mais tu vas répondre à ça déjà. Prophète.
Oui, bien sûr. C'est vraiment un prophète dans le sens où je pense qu'il voit des choses qu'on a beaucoup de mal à admettre, nous. Et du coup, c'est vraiment ce que fait un prophète dans la Bible. Il dit des choses qu'on a un mal fou à accepter. Hein, mais disons, à l'épreuve, on s'aperçoit que ben, oui, c'est vrai. Sinon, il y a une question théologique qui est restée en rade aussi tout à l'heure, parce que quelqu'un avait demandé est-ce qu'il y aurait une autre théologie possible que celle de Joseph Brzezinski, hein? Alors, par rapport à ça, moi je dirais deux choses. La première chose, c'est que c'est extrêmement sain que dans l'Église, il y ait plusieurs théologies. Il ne peut pas y avoir qu'une seule théologie. Déjà, regardez, dans l'Évangile, il y a 4 évangiles. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Il n'y a pas une seule manière d'appréhender le Christ et de parler du mystère de Dieu. Voilà. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que, disons, s'il n'y avait qu'un seul évangile, il n'y aurait plus de jeu. On serait bloqué dans une seule lecture possible. Voilà. Et donc, en théologie, c'est pareil. Il y a toujours des écoles différentes qui souvent se chamaillent, etc. etc. mais ça fait partie vraiment de la théologie. Voilà. Alors, en fait, je crois que les intuitions de Joseph Brzezinski et sa pensée ne font peut-être pas nombre. C'est pas une théologie parmi d'autres. C'est peut-être, disons, comme une interrogation posée à toute théologie et qui vient l'empêcher de tourner sur elle-même. Voilà, parce que la grande tentation de la théologie, mais il n'y a pas que de la théologie, mais de toutes les constructions humaines, hein, y compris l'Église, etc., la grande tentation, c'est toujours de tourner sur soi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les théologiens se renvoient des choses les uns aux autres, etc., mais finalement, ça finit par être quelque chose qui tourne sur soi. Hein. Et disons, Joseph Brzezinski, il empêche ça, parce que il fait entendre jusqu'au cœur de l'Église et de la foi l'appel des personnes marquées par la très grande précarité. Voilà. Et ça rouvre tout le jeu. Et je pense qu'en plus, ça aide à penser. Ce n'est pas quelque chose qui va nous rendre moins intelligents, mais plus intelligents, je pense. Voilà. Ça, ouais.
Oui, tu avais...
Non, parce que...
Oui, j'avais une autre question à moins que... Parce que je continue sur la théologie avant que tu poses la question, Claire, merci. Parce que j'avais une question par rapport à la théologie de la libération, justement. Parce qu'on a une théologie, on pourrait dire, des plus pauvres qui nous précède, là, en Amérique latine, qui essaye de faire une théologie à partir des pauvres, qui parle d'un peuple crucifié, pour qui la notion de peuple est aussi très importante, et un peuple de pauvres, d'abord. Voilà, est-ce que tu pourrais dire quelque chose de... Voilà, en quoi c'est différent, ou en quoi ça... Il y a une ressemblance avec cette théologie latino-américaine dans l'intuition du Père Joseph, de partir des pauvres, de réfléchir à partir de celui qui manque, etc.
Ah, c'est une question difficile, hein. Et ben, si on fait un séminaire de recherche dessus,
c'est parce que... Coups, voilà.
Mais je dirais, une partie des différences, une partie d'abord, il y a énormément de ressemblances dans les deux cas. Ce sont des théologies qui justement se laissent saisir et mettent au premier plan l'appel que représentent les personnes qui vivent dans des situations de violence ou de très grande pauvreté. Hein. Et du coup, ça devient tout à fait central dans la manière de faire de la théologie. Hein. Donc ça, c'est tout à fait commun, on peut dire, à la perspective de Joseph Brzezinski et à la théologie de la libération. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans la manière de travailler de Joseph Brzezinski, c'est l'importance donnée à la parole des personnes marquées par la grande précarité, leur parole. Et par exemple, moi, j'avais été frappé, lisant un rapport de ATD sur l'école, de voir de temps en temps, il y avait des citations, et des vraies citations, et qui étaient commentées après. Et ça faisait, ces citations-là, d'un seul coup, ça faisait comme une fenêtre qui s'ouvre sur un monde qu'on a beaucoup de mal quand même à appréhender. Voilà. Alors, moi je me suis dit, la manière de faire la théologie qu'appelle Joseph Brzezinski, elle ne peut pas ne pas s'appuyer sur ces paroles-là. Et du coup, pas parler des pauvres seulement comme un phénomène, mais disons, les entendre, eux, parler, et faire de la théologie à partir de leurs paroles. Voilà. Et ça, ben, je pense que, enfin, disons, quand je lis des livres des théologies latino-américains, je vois peu ça. Alors c'est peut-être parce qu'ils baignent finalement plus que nous, les théologiens européens, ils sont peut-être plus proches finalement de leur peuple que nous, c'est possible, hein. Et que du coup ils n'éprouvent pas le besoin de faire entendre, voilà, les réalités que les personnes vivent et tout ça, hein. Mais je trouve que des fois c'est un petit peu un peu loin finalement de l'expérience elle-même des personnes en grande pauvreté. Sinon, on peut dire aussi un autre point important, c'est que la dimension politique, évidemment, est très affirmée dans les théologies de la libération. Elle n'est pas absente du tout, on l'a entendu ce soir beaucoup, hein, dans la perspective de Joseph Rzezinski. Mais peut-être qu'il a une manière un peu... En fait, Joseph Rzezinski, je pense qu'il veut en même temps révolutionner la manière de faire la politique. C'est-à-dire en sortant... Enfin, travailler avec les plus pauvres oblige à sortir de simples logiques de rapport de force. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que vous voulez avoir un rapport de force gagnant si on s'allie avec des personnes qui sont marquées par la très grande pauvreté? Donc il faut trouver autre chose, il faut essayer, ça oblige à inventer une autre manière de faire de la politique. Voilà. Alors ça, je pense que dans les deux cas, il y a un souci du politique, mais qui ne joue pas tout à fait de la même manière. Hein. Bon, voilà.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors il y avait Claire qui avait une question.
Je me demandais simplement, depuis un moment, l'attachement du père Joseph à la laïcité du mouvement d'athée des Quart-Mondes, que je crois très ferme de sa part, voilà, comment la fondait-il ?
Vas-y, Marcel.
Alors,
pourquoi
ah oui, tu en as parlé
oui,
tout à l'heure.
Pourquoi
ah.
Il a voulu un mouvement laïque, Joseph sans religion ?
Oui, le père Joseph voulait qu'athée des Quart-Mondes soit sans religion. Hein, donc, qu'il soit pas mis dans une religion, soit catholique. Parce que, pour la bonne raison qu'il voulait que tout le monde puisse venir à athée des Quart-Mondes. C'est-à-dire, les athées, comme les musulmans, comme les bouddhistes, comme les marmons, comme tout le monde. Il voulait que tout le monde s'acceptait. Ça n'empêche qu'il disait que, hein, on peut, c'est pour ça qu'on avait créé, donc, un autre mouvement à côté, qui s'appelait Chrétien Quart-Monde. Hein, qui ne faisait pas, on faisait pas partie de la Télé Quart-Monde, mais on était quand même un mouvement à part, s'appelait Chrétien Quart-Monde. Si bien que maintenant on l'appelle plus Chrétien Quart-Monde, mais nous on s'appelle Pierre d'Angle parce qu'on trouve que c'est mieux de s'appeler Pierre d'Angle que de s'appeler Chrétien Quart-Monde, parce que pour moi la pierre d'Angle, la pierre qui était rejetée. Voilà, tout le monde la connaît, hein, on sait que c'est nous. Donc on monte petit à petit et on monte de voilà, et on monte les étages, et voilà, et on devient plus haut.
Oui, Jean-Claude.
J'ai répondu ? Très
bien. Pour compléter ce que vient de répondre Marcel sur ce que vous avez appelé, madame, la laïcité, il me semble que le père Joseph n'a pas voulu créer un mouvement qui soit laïque au sens de la laïcité à la française ou la laïcité telle qu'en 2015 on l'entend. Il a voulu créer un mouvement qui, dans ses termes, il disait interconfessionnel, virgule, pas aconfessionnel. Donc il y avait vraiment ce inter. Plus exactement, on pourrait dire aujourd'hui, dans un langage différent, interconvictionnel. En fait, il ne s'agissait pas que chaque membre du mouvement athée des Quart-Mondes soit sans religion, mais qu'il puisse, au sein d'athée des Quart-Mondes, à partir des plus pauvres rencontrés, aller aussi loin qu'il est possible dans ses propres convictions. Mais aussi loin qu'il est possible. Et la tâche du mouvement athée des Quart-Mondes, tel que voulu par le père Joseph, le père Joseph est mort en 1988, donc on ne veut pas lui faire dire ce qu'il penserait en 2015, mais c'était que chaque membre du mouvement athée des Quart-Mondes pouvait aller aussi loin qu'il est possible dans le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, le christianisme ou l'humanisme incroyant. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'a pas créé un mouvement laïque, en tout cas, jusqu'en février 88, date de sa mort.
Oui, voilà, encore une intervention là-bas, et ici, peut-être déjà ici, là-bas, voilà.
Juste une... illustration du dernier propos, je me souviens en 1982 avoir participé à une session spiritualité en Quart-Monde, qui était une session interreligieuse animée par le Père Joseph, avec aussi des représentants orthodoxes, catholiques, musulmans, juifs. Le thème en était les plus pauvres acteurs de réconciliation dans le monde. Et le Père Joseph avait décliné son intervention en trois points. Les plus pauvres moteurs de notre unité, moteurs de notre charité, moteurs de notre espérance. La jeune convertie que j'étais a été saisie profondément par cette session interreligieuse qui, n'oublions pas, était en 1982. Je peux encore garder un peu le micro, quelques secondes. Simplement, il me semble que le Père Joseph n'a pas seulement appelé à rechercher et à rejoindre les plus pauvres, parce que ça, c'est très difficile, c'est pas naturel, ça va pas de soi. Il me semble qu'il a aussi donné le moyen de cette quête des plus pauvres et de les rencontrer. Et en fréquentant ses écrits, que ce soit sa correspondance, ses réunions de formation avec les volontaires permanents, ses messages publics, il m'a semblé découvrir un thème transversal, l'éducation du cœur. Éduquer, ex ducere, je ne vais pas vous faire une analyse de ce mot-là, conduire au dehors, et le cœur, le centre profond de la personne. Si on accepte d'être passé au crible de son éducation du cœur, lui-même est passé au crible de cette éducation du cœur, il me semble qu'alors on peut rejoindre en vérité le plus pauvre et le rencontrer vraiment. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'éducation du cœur, c'est une affaire de longue haleine. Et je crois que c'est ça, si je puis dire, le prix à payer, parce que c'est onéreux.
Merci. Il y avait également peut-être la dernière prise de parole ici. Non, il y avait une autre ici, c'est ça? Non. Ah, c'était... Est-ce qu'il y a des prières quand... qui se réunit, qui est dans les mouvements se réunit? Non.
Non, mais Jean-Claude a très bien décrit ce que était le mouvement dans ses multiples convictions et multiples confessions. Mais je dois ajouter également que le Père Joseph parlait beaucoup de spiritualité. Et la spiritualité est même les derniers paragraphes de son dernier message aux volontaires, lorsqu'il était à l'hôpital à Suresnes. Bon. Et il dit bien que la spiritualité, pour lui, c'est d'être en contact avec l'esprit. Hein. Mais il presse chacun d'avoir une spiritualité, quelle qu'elle soit. Et du moment, comme tu disais, d'aller au fond de cette conviction-là, voilà. Il parlait, ce furent quand même ses derniers mots, la spiritualité. Hein.
Et, Alain, oui, un petit mot pour répondre aussi à votre question. Je pense qu'à TD, je pense que ce n'est pas un lieu où on prie tellement. Mais par contre, à TD a provoqué la naissance de beaucoup de lieux d'église, qui sont des lieux où on fait église avec les personnes du quart-monde. Par exemple, la Pierre d'Angle, dont a parlé Marcel, mais il y a aussi toutes les fraternités du réseau Saint-Laurent, il y a le Sapel qui est à Lyon, les Sœurs de la Bonne Nouvelle à Toulouse, Magdala à Lille, la Diaconie du Var, bref, il y a beaucoup de lieux comme ça, voilà, où la prière et l'écoute de la parole de Dieu ensemble jouent un rôle tout à fait central. Hein. Ouais. Sinon, je voulais redire une chose sur l'éducation du cœur, parce que moi, je trouve que... Enfin, là, je parle personnellement. Je trouve que... Comment dire? La bienveillance du cœur ne suffit pas. Parce qu'on a en nous des réflexes. C'est de l'ordre des réflexes profondément inscrits qu'on ne connaît même pas. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais on a des manières de réagir spontanées qui font qu'on va donner plus ou moins d'importance à telle ou telle chose. Voilà. Et ça... Seul le contact et la fréquentation des personnes marquées par la grande pauvreté nous le révèle et permet d'en prendre conscience, pas forcément de s'en corriger d'ailleurs, mais au moins d'en prendre conscience. Et disons, Alors ça fait sans doute partie de ce que vous appelleriez l'éducation du cœur, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation tout court. Je ne sais pas comment dire autrement. Hein. À travers cette prise de conscience des réflexes qu'on a.
Conversion, peut-être. Voilà, peut-être, on va terminer maintenant. Voilà, donc je vais laisser peut-être la parole simplement une dernière fois à chacun des intervenants, et puis nous conclurons notre soirée. Un dernier mot ?
Non.
Ça va ? Simplement lisez le livre, voilà. Marcel, sur le Père Joseph, un dernier mot.
Le Père Joseph, pour moi, il est toujours présent. Il fait partie de ma vie. Hein, donc, comme j'ai dit, la seule chose où j'ai pleuré, c'est à Notre-Dame. Hein, c'est la seule fois où il m'a fait pleurer. Hein, voilà. Hein, mais voilà. Mais on peut pas l'oublier. Hein, puis bon, je me dis, le pape François a pris la route hein, pour nous défendre. Donc c'est déjà bien, hein. Mais bon, faut que le combat du Père Joseph, eh ben, il continue avec les militants et avec tout le monde. Voilà. C'est pour moi c'est ça. Le Père Wyszynski vivra toujours.
Marie-Bonne.
Je pense que. Un peu pour rejoindre ce que vient de dire Étienne, je crois que c'est vrai, on peut, au bout du compte, la rencontre est nécessaire. Je crois qu'il faut se rencontrer en vérité et se laisser petit à petit interroger, rejoindre, voilà, et rencontrer l'autre, mais pas le rencontrer à travers ses idées. Simplement à travers ce qu'il est et ce qu'il nous dit.
Ben moi je dirais simplement que je crois qu'à travers la brèche qu'a ouverte le Père Joseph, il y a quelque chose qui a germé, qui a commencé à germer, notamment dans l'Église, et notamment dans l'Église de France, et je pense que Diaconia, c'était un des fruits de ça. Et pour moi, ça n'est vraiment qu'une étape. Et je crois qu'on en a encore qu'un commencement. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. On peut remercier à nouveau nos quatre intervenants. Voilà, en particulier, il faut redire que Marcel vient de Brest, spécialement pour nous. Alors voilà, on peut la remercier beaucoup. Voilà. Je vous dis bonsoir à chacun. Ceux qui le veulent, qui veulent être informés des activités de la chaire Jean Rodin, ils peuvent, s'ils le souhaitent, inscrire leur nom et mettre leur mail dans ce petit papier. Voilà. Donc si vous voulez bien le prendre, si tu peux le distribuer, ceux qui le veulent, voilà. Mettez votre nom et on vous enverra les informations sur les activités de la chaire Rodin pour ceux qui le veulent.